si tu manges à la moindre contrariété, que tu alternes entre restriction et pulsion alimentaire, que tu penses H24 à la nourriture et que tu es obsédé par ton image corporelle, tu es au bon endroit. La nourriture a contrôlé tous mes faits et gestes pendant de nombreuses années. En passant des crises de compulsion à la restriction et à l'obsession de mon corps, j'ai vécu un conflit permanent avec mon alimentation et mon image corporelle pendant bien trop longtemps. Bienvenue dans Liberté Alimentaire, le podcast qui te permet de décoder ton comportement alimentaire et d'apaiser ton alimentation émotionnelle et compulsive. Moi c'est Céline, je suis naturopathe, praticienne en thérapie cognitive et comportementale, ainsi que coach et la créatrice du coaching Naturo. Au quotidien, j'accompagne les femmes à se libérer de la suralimentation émotionnelle et des compulsions alimentaires. Concrètement, je te soutiens dans ton cheminement pour réapprendre à t'écouter et à répondre à tes besoins autrement que par la nourriture. Je travaille d'une manière holistique, c'est-à-dire que je t'accompagne sur toutes les sphères qui influencent ton comportement alimentaire, physiologique, psychique et émotionnel. Grâce à ce podcast, je te partage des conseils et des pratiques concrètes à mettre en place dès aujourd'hui pour te permettre de te libérer des compulsions et enfin faire la paix avec ton corps et ton alimentation. Pourquoi tu perds le contrôle face à la nourriture ? T'as du mal à t'arrêter quand tu commences à manger. Peut-être que tu commences par manger quelques gâteaux pour le plaisir, à la fin d'une longue journée, parce que t'as envie de te détendre, te récompenser et juste profiter. Mais ces quelques gâteaux tournent vite au paquet entier. Ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que ça dure. Ça te prend énormément d'énergie, notamment d'énergie mentale, parce que tu y penses hyper souvent. Et t'aimerais bien pouvoir arrêter ce comportement et faire de la nourriture un plaisir plutôt qu'une source de stress. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste te partager que je lance mon coaching de groupe Liberté Alimentaire et que j'accepte actuellement de nouvelles clientes. Il y a déjà 6 femmes qui se sont dit oui pour rejoindre ce coaching de groupe qui va être incroyable avec une énergie de folie. Liberté Alimentaire, c'est l'accompagnement de groupes multidisciplinaires qui te permet de te libérer des compulsions et de la suralimentation émotionnelle de manière durable. Ensemble, on identifie et on travaille sur les facteurs qui sont à l'origine de ce comportement pour toi, afin de te permettre de faire la paix avec ton corps et ton alimentation, et ainsi libérer de l'espace et de l'énergie mentale pour d'autres choses. Petite parenthèse fermée. Mais alors, pourquoi tu perds le contrôle face à la nourriture? Et surtout, comment faire pour arrêter et pour te libérer de tout ça? Je suis convaincue que c'est hyper important pour identifier comment faire pour t'en libérer, de savoir déjà dans un premier temps pourquoi. Pourquoi tu as ce comportement? Pourquoi tu as des compulsions? Pourquoi tu as ce besoin de manger et cette difficulté à t'arrêter? Ce qu'il est hyper important de savoir ici, c'est que le comportement alimentaire, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est juste ce que tu vois. C'est le symptôme qui est tangible et qui aujourd'hui te pose problème et génère une certaine souffrance. Mais ce n'est que justement le symptôme de ce qui se passe à un niveau bien plus profond. Par exemple, une personne qui va avoir des maux de tête hyper récurrents, on va avoir tendance à aller lui donner du doliprane, du doliprane, du doliprane. Mais si ces maux de tête sont justement récurrents, que ce soit toutes les semaines, tous les mois, certaines périodes, etc., il y a sûrement une cause qui est bien plus profonde et qu'on ne voit pas. Ça peut être le foie, ça peut être un dérèglement hormonal. Tout ça, ce sont les causes profondes. Les maux de tête ne sont que les symptômes qui indiquent quelque chose de plus profond qui se passe au niveau du corps et de l'organisme. Et ben, c'est exactement la même chose pour le comportement alimentaire. Le comportement alimentaire, c'est ce que tu vois. Les compulsions, les fringales, la difficulté à t'arrêter, la suralimentation, le fait de ne pas écouter tes sensations, etc. Ce ne sont que les symptômes de quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi qui sont bien plus profonds. Et donc, c'est hyper important d'aller identifier ces facteurs-là pour t'en libérer. On a tendance à blâmer la nourriture. Mais encore une fois, ce n'est que le symptôme. Et quand on essaye de travailler sur le symptôme et qu'on essaye justement de mettre un pansement finalement sur le symptôme, bah à la moindre occasion, ce symptôme revient. Puisqu'on ne le règle pas finalement, on ne fait que le cacher pendant un certain temps. C'est ce qui se passe notamment avec les régimes, avec la restriction, etc. Et donc, pour te libérer de ce comportement alimentaire qui génère beaucoup de stress, d'angoisse, d'anxiété et de souffrance aujourd'hui, dans ton quotidien, il est important d'aller identifier l'origine, finalement, de ce comportement-là. Et le comportement alimentaire est assez complexe, dans le sens où il dépend de différents facteurs. Il va dépendre notamment de facteurs psychologiques, de facteurs physiologiques et ou de facteurs émotionnels. Et dans cet épisode, je vais aller t'expliquer de manière assez simple et courte, justement, les différents facteurs qui pourraient engendrer ce comportement alimentaire. Donc on va parler de différents facteurs physiologiques, de différents facteurs psychologiques et de différents facteurs émotionnels. Bien évidemment, je te donnerai aussi quelques pistes pour pouvoir travailler sur chacun de ces facteurs pour que tu repartes avec des éléments un petit peu concrets. Je vais commencer par évoquer les facteurs physiologiques. Qu'est-ce que c'est les facteurs physiologiques ? Ce sont les facteurs qui sont liés à ton organisme. Et il y en a beaucoup. Ici, je vais en aborder quatre principaux qui sont les hormones, le microbiote, le système nerveux et l'alimentation. Les hormones, elles jouent un rôle hyper important sur plein de choses dans ton quotidien, sur comment tu te sens et comment ton organisme fonctionne. Et elles vont aussi avoir un impact hyper important sur ton comportement alimentaire. Je pense ici notamment à quatre hormones hyper importantes que sont la leptine, la gréline, le cortisol et l'insuline. La leptine et la gréline, ce sont les hormones de faim et de satiété. Et donc en fait, quand tu as un dérèglement hormonal, quand tu dors pas bien, notamment parce que ce sont des hormones qui sont régulées pendant la nuit, tu vas justement pouvoir avoir ces hormones de faim et de satiété qui sont un peu dérégulées. Et donc par exemple, quand tu ne dors pas bien, ton hormone de la faim, la gréline, va être plus importante et ton hormone de la satiété, la leptine, va être moins importante. Ce qui fait que dans la journée, tu peux potentiellement avoir plus faim, avoir des fringales aussi parce que tu vas chercher de l'énergie. Et où est-ce qu'on trouve l'énergie ? Dans la nourriture, beaucoup dans tout ce qui va être notamment les glucides. Et donc, quand ces hormones sont dérégulées, ça peut être à cause de différentes choses. Ça peut être des dérèglements hormonaux par rapport à l'alimentation, par rapport à quelque chose de génétique, par rapport justement à un mauvais sommeil. Il y a différentes causes possibles de dérèglement hormonal. Et quand ces deux hormones-là vont potentiellement être dérégulées, ça va avoir un impact justement sur tes sensations de faim et de satiété. Et donc, potentiellement, ça peut engendrer des fringales, des compulsions ou une suralimentation en fin de repas parce que tu as du mal à t'arrêter car tu n'as pas ces sensations justement de faim et de satiété. Ensuite, tu as le cortisol et l'insuline. Le cortisol et l'insuline, donc le cortisol, c'est cette hormone finalement du stress. C'est l'hormone qui est libérée quand tu as un stress soit ponctuel, soit quand tu as du stress permanent. Le cortisol, il est lié non seulement à la sensation de faim, de satiété, parce que, on va voir après, c'est lié aussi à l'insuline, mais c'est aussi lié à beaucoup la prise de poids. Et c'est pour ça que, parce que c'est lié aussi au taux de sucre dans le sang et donc à l'insuline, et c'est pour ça que souvent, il peut y avoir des personnes en surpoids qui n'ont même pas, qui ont une alimentation tout à fait équilibrée, mais parce que en fait, ils sont très stressés et ils ont un stress chronique, ils vont avoir tendance à prendre du poids. Il y a d'autres choses aussi, justement au niveau d'autres hormones, par exemple la thyroïde. Mais en tout cas, ça, c'est un facteur qui est à prendre en compte. Le cortisol, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as un stress qu'on va appeler un stress chronique, ça veut dire que ton organisme est en situation de stress permanent, il y a beaucoup de cortisol qui est sécrété. Et le cortisol, qu'est-ce que ça fait ? En fait, ça va engendrer une libération de sucre dans le sang parce que de base, la réaction de stress, elle est faite pour quoi ? Elle est faite pour te permettre de réagir. Et donc, ton organisme est tellement intelligent qu'il va libérer du sucre dans ton sang lors d'une situation de stress pour que tu puisses t'enfuir si tu as besoin finalement et juste donner ce boost d'énergie pour être capable de réagir. Sauf que quand c'est un stress qui n'est pas ponctuel mais qui est permanent, ce qui est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui, ce cortisol il va être sécrété de manière beaucoup trop importante et surtout de manière permanente. Ce qui fait que tu as très régulièrement, du sucre dans le sang qui est libéré dans ton organisme, ce qui va impacter l'insuline, puisque l'insuline, elle est là pour réguler justement ce taux de sucre dans le sang et ne pas dépasser un certain niveau, qui peut être dangereux pour ton organisme plus ou moins en fonction du niveau, d'accord ? Parce que l'insuline, c'est ça aussi, que quand on dépasse un certain niveau, quand en fait, on ne réagit plus à l'insuline, c'est ce qui va causer aussi le diabète de type 2, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est juste pour te mettre dans le contexte. Et donc, du coup, cette insuline qui va réagir et qui va être libérée souvent de manière trop importante en réaction à un cortisol qui est libéré de manière beaucoup trop importante, et ben en fait, cette insuline peut devenir perturbée. Non seulement ça va épuiser les glandes surrénales, qui sont aussi liées, donc justement tout ça c'est corrélé, ça va épuiser les glandes surrénales parce que à force de trop de cortisol aussi, à un moment donné elles s'épuisent parce que l'organisme n'est pas fait pour supporter des stress permanents. Des stress ponctuels, oui, il est fait pour ça, mais pas des stress permanents. Et donc ça va jouer aussi sur les taux d'insuline. Tu vas avoir en fait ce qu'on va appeler des pics de glycémie, donc en fait une hyperglycémie. Ça veut dire que ton taux de sucre dans le sang va dépasser la moyenne, entre guillemets, et la norme conseillée pour l'organisme. En réaction, il va y avoir beaucoup d'insuline qui va être sécrétée. Et donc, cette insuline qui va être sécrétée en trop grande quantité pour réagir à cette hyperglycémie va générer une hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire que ton taux de sucre dans le sang va baisser énormément en dessous du seuil conseillé. Et donc, en fait, cette hypoglycémie va te donner ces envies de sucre et de manger parce que tout simplement, tu vas aller chercher de l'énergie. Et l'énergie, on la trouve dans l'alimentation. Et donc, ça, potentiellement, tu vas aller chercher des éléments sucrés. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va réengendrer une hyperglycémie et de nouveau une hypoglycémie réactionnelle. Et donc en fait, tu vois, ça fait un peu les montagnes russes à cause potentiellement donc du stress, du cortisol et ensuite de la réaction avec l'insuline. Et donc ces deux hormones vont aussi énormément impacter ton comportement alimentaire et donc potentiellement tes compulsions et tes fringales. Et ici, ce qui est hyper important de se rappeler, c'est vraiment l'impact du stress et du stress chronique. Et on va en parler quand on parlera du système nerveux juste après, mais rappelle-toi que le stress et le stress chronique jouent un rôle hyper important sur ton comportement alimentaire à cause notamment il y a d'autres facteurs, notamment des facteurs psychologiques, mais dans ce cadre de facteurs physiologiques, c'est lié en fait aux hormones qui sont liées au stress. Sachant qu'aujourd'hui, tu as 80%, alors c'est pas un chiffre qui est vérifié, mais il y a énormément de la population qui est en stress chronique parce qu'en fait, on n'a plus ce stress de « on va se faire bouffer par le lion », mais par contre, on a le stress du travail, des emails, des téléphones, des informations négatives qui nous arrivent tout le temps. Et donc, en fait, on est en stress chronique. Et donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont justement, au niveau du cortisol, de l'insuline, etc., un dérèglement, justement à cause de ce stress chronique. Un deuxième facteur physiologique qui va impacter ton comportement alimentaire, c'est le microbiote. On dit que les intestins sont le deuxième cerveau, et c'est vrai pour deux raisons. La première, c'est l'état de ta paroi intestinale va être hyper importante parce que en fonction de son état, si elle est plus ou moins poreuse, elle peut potentiellement laisser passer des toxiques en fait dans ton organisme, notamment dans le sang, et donc aller dans le cerveau et impacter en fait tes neurotransmetteurs, tes hormones et donc ton état d'être, comment tu te sens de manière générale. Donc non seulement ton état physiologique et les maux et les troubles physiologiques que tu peux avoir, mais aussi au niveau psychologique, au niveau mental, et aussi du coup au niveau du microbiote, parce que le microbiote c'est un monde extraordinaire avec des milliers et des milliards de micro-organismes en fait vivants, dont les gènes vont interagir avec nos propres gènes. Et donc ça fait que ça a un impact hyper important sur ton comportement alimentaire. En fait, le microbiote, les intestins sont en communication directe et permanente avec ton cerveau, notamment par le nerf le plus important de l'organisme qui est le nerf vague, d'accord, mais aussi par des neurotransmetteurs comme la sérotonine qui est un des neurotransmetteurs les plus connus du bien-être, donc pour te sentir bien et hyper important à ta santé mentale. Et tout ça, c'est lié au microbiote. Et il y a de plus en plus d'études qui ont été faites avec des souris en laboratoire ou des rats en laboratoire et qui ont étudié justement le comportement alimentaire des souris en fonction de l'état de leur microbiote ou même si elles avaient un microbiote ou non. Et donc le microbiote aujourd'hui est lié à deux choses hyper importantes notamment, c'est le surpoids et l'obésité, mais aussi le comportement alimentaire. Je ne vais pas aller trop en détail là-dessus parce qu'il y aura d'autres épisodes de podcast spécifiques sur le microbiote, mais j'avais vraiment envie de te partager le fait que le microbiote joue un rôle primordial sur ton comportement alimentaire et c'est pour ça que c'est hyper important aussi d'adresser la physiologie. Un troisième élément de ta physiologie qui va avoir un impact hyper important sur ton comportement alimentaire, c'est ton système nerveux et la régulation de ton système nerveux. C'est un élément dont on oublie beaucoup beaucoup de parler quand on parle de comportement alimentaire, mais en tant que naturopathe, en tant que coach holistique aussi, c'est vraiment pour moi quelque chose qui fait toute la différence avec mes clientes. Le système nerveux, c'est vraiment ce qui régule ton comportement au quotidien, ce qui te garde en vie et ce qui va réguler aussi ton état d'être et surtout ton état de sécurité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, comme je te le disais, il y a beaucoup de personnes qui sont en situation de stress chronique qui, du coup, dérégulent le système nerveux. Encore une fois, ça, je t'invite, l'épisode précédent était sur le système nerveux, donc il y a tout un épisode sur ça. Donc si tu veux aller un petit peu plus en détail, je t'invite à écouter l'épisode précédent. Mais donc, quand on est en état de stress chronique, souvent on a un système nerveux qui est dérégulé. Et quand on a un système nerveux qui est dérégulé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc on est souvent en situation de stress, d'anxiété ou parfois de déprime en fonction de l'état dans lequel se trouve notre système nerveux, si c'est plutôt justement dans ce flight or fight ou dans le freeze. Encore une fois, je te rapporte à l'épisode précédent pour comprendre un petit peu plus comment fonctionne le système nerveux et le lien avec ton comportement alimentaire. Mais souvent, c'est une pièce manquante finalement dans les approches justement sur le comportement alimentaire. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle jusqu'à présent pour toi rien n'a fonctionné. Parce que souvent on oublie de prendre en compte ce système nerveux et c'est vraiment hyper important. Parce que quand ton système nerveux est dérégulé, tu vas aller chercher des moyens de régulation et la nourriture est un de nos premiers moyens de régulation. Donc encore une fois, un élément hyper important à prendre en compte dans la physiologie. Et le dernier élément dont je vais te parler, c'est l'alimentation. Pourquoi l'alimentation ? Bah parce qu'en fait, tout simplement, l'alimentation va avoir un impact sur les trois facteurs dont je viens de te parler, sur les hormones, sur le microbiote et sur le système nerveux. Et aussi sur l'inflammation générale de ton corps, qui joue aussi un rôle spécifique sur ton comportement alimentaire. En fait, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que tout est lié. Et l'alimentation, par les nutriments en fait que tu vas apporter à ton corps et que tu vas absorber dans ton intestin, va ensuite permettre de réguler ton système nerveux, entre autres, va participer à l'état de santé de ton microbiote et va permettre la bonne sécrétion et le bon fonctionnement des hormones et des neurotransmetteurs. Même s'il y a d'autres facteurs, mais l'alimentation, c'est vraiment un pilier clé de tout ça, notamment, donc comme je te disais, par les nutriments que tu absorbes, que ce soit les macronutriments, les glucides, les acides aminés très importants pour les hormones et les neurotransmetteurs, les bons gras, donc les oméga 3, les oméga 6, mais aussi tout ce qui va être les micronutriments, les oligo-éléments, les vitamines, les minéraux, etc. Et aussi parce que l'alimentation, en fonction de ce que tu manges à différentes heures, donc ce qu'on va appeler la chrononutrition, vont pouvoir aussi fluctuer et impacter tes hormones, notamment le cortisol. Et donc, les moments où tu manges telle ou telle chose vont aussi être importantes et vont avoir un impact sur ton comportement alimentaire. Et donc, ce que je veux que tu retiennes ici sur la partie physiologie, c'est que tout est lié. C'est-à-dire que ton alimentation, le fonctionnement de tes hormones, le fonctionnement de tes neurotransmetteurs, l'état de ton microbiote, l'état de ton système nerveux, tout ça, en fait, et tes différents organes, tout ça, c'est lié. Et tout ça participe à shape, à vraiment organiser, à... J'arrive pas à trouver le mot en français, mais participe en tout cas à ton comportement alimentaire actuel. Donc comment faire pour optimiser ta physiologie et faire en sorte qu'elle impacte positivement justement ton comportement alimentaire ? Donc, il faut avoir une alimentation qui t'est adaptée, qui soit suffisante, que ce soit en quantité ou en qualité. Et ça, c'est avoir en fonction des personnes, à avoir une approche individualisée. C'est être en mouvement, donc la marche, pratiquer une activité physique, le yoga, le renforcement musculaire, le vélo, la natation, peu importe, c'est vraiment d'être en mouvement, c'est hyper important pour ton corps. C'est la respiration, avoir une bonne respiration qui te permet d'oxygéner tes cellules, mais aussi qui permet de réguler ton système nerveux. C'est pratiquer la régulation du système nerveux par différentes techniques qui feront sûrement le sujet d'un autre épisode. Et c'est potentiellement avoir certains soins spécifiques, certaines approches spécifiques, que ce soit des compléments, que ce soit des techniques complémentaires, que ce soit les huiles essentielles, etc., en fonction de tes besoins spécifiques. Et donc ici, mon conseil, ce serait d'aller consulter un ou une naturopathe pour creuser au niveau justement de ta physiologie. Est-ce qu'il y a des choses que tu as besoin d'adresser pour t'aider à réguler ton comportement alimentaire ? On passe à la partie 2 et donc je vais te parler des facteurs, cette fois psychologiques. Encore une fois, ici, il y en a plusieurs, donc je vais te parler brièvement de la restriction, qu'elle soit physique, bon du coup c'est plus physiologique, mais cognitive, le conditionnement, les croyances et aussi le fait d'être dans le contrôle permanent. Alors, quelque chose qui joue énormément et que je vois dans 99,9% de mes clientes aussi, c'est la restriction. Souvent, donc, et là, je vais te parler surtout de la restriction cognitive. Souvent, ce qui se passe, c'est que, en fait, tu vas pouvoir aller diaboliser certains aliments ou certains groupes d'aliments parce que tu as appris qu'ils n'étaient pas bons pour la santé, parce que tu as appris que ça pouvait te faire prendre du poids, parce qu'il ne faut pas trop en manger, etc., etc. Et donc, en fait, tu en viens à diaboliser ces aliments ou certaines catégories d'aliments. Par exemple, je sais que pendant très longtemps, on diabolisait tout ce qui était les gras, après ça a été les glucides, enfin voilà, c'est des modes aussi, hein, c'est une réalité. Et en fait, on utilise beaucoup l'alimentation pour faire en sorte d'impacter et de contrôler en fait son physique et son corps et son image corporelle. Et donc on va avoir tendance à se restreindre parce qu'on va chercher à perdre du poids, mais aussi parfois parce qu'on a envie de répondre à certains idéaux de la société qui disent que en fait il faut absolument manger healthy, parce qu'il faut être fit, parce que ci, parce que ça. Et donc en fait le problème de la restriction, et notamment de la restriction cognitive, c'est que ça peut justement engendrer ces compulsions. Parce que c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que quand ton cerveau, tu lui dis « non, ne fais pas ça », il va être obsédé par ça. Si je te dis de ne pas penser à un éléphant rose, la seule chose à laquelle tu vas penser, c'est un éléphant rose. Et c'est comme ça, ton cerveau, il est construit comme ça. Quand tu étais petite et qu'on te disait de ne pas sauter sur le lit, tu avais envie de faire qu'une chose, c'est de sauter sur le lit. Et donc, quand en fait, tu vas te restreindre, même si tu manges, par exemple, du chocolat, des gâteaux, toutes ces choses que tu penses mauvaises, même si en soi tu les manges, le fait en fait que tu les diabolises de manière permanente pour X ou Y raison, peu importe, mais le fait que tu les diabolises et que tu mettes des étiquettes comme bons et mauvais sur certains aliments, et en fait les aliments que tu vas catégoriser comme mauvais et que tu te dis que tu ne devrais pas manger, tu vas penser qu'à ces aliments-là, et en fait ça va devenir une obsession, ce qui fait que du coup ça peut engendrer justement ces fringales et ces compulsions sur ces aliments. Et pour rendre la chose un peu plus concrète, c'est que tu te rends bien compte que les aliments sur lesquels tu as des fringales, ce n'est pas, ou des compulsions, ce n'est pas des aliments que tu considères comme sains. Tu ne vas pas avoir des fringales généralement sur de la salade, sur des légumes, sur toutes ces choses que tu vas considérer saines. Généralement, c'est justement les aliments que tu vas diaboliser et sur lesquels tu vas te restreindre, même si, encore une fois, c'est cognitivement. Donc je t'invite vraiment à faire attention à ça. Un deuxième élément psychologique, ça va être le conditionnement. Le conditionnement, c'est quoi ? C'est les habitudes, en fait, que tu as prises. Et il faut savoir que ton cerveau, il travaille il fonctionne à 90% grâce à ton subconscient. C'est-à-dire toutes ces choses automatiques que tu fais de manière inconsciente parce que tu les as apprises et surtout parce qu'en fait, tu les as fait suffisamment de fois pour que ton corps sache les faire automatiquement sans même que tu aies besoin de réfléchir. Par exemple, là, c'est tes chaussures. Par exemple, si tu as l'habitude, si tu as un rituel le matin, ça devient justement dans ton subconscient. Et tout ça, c'est hyper pratique parce que ça te permet de libérer de la charge mentale et de l'énergie pour autre chose. Et c'est incroyable cette capacité que le cerveau a à finalement créer justement ses habitudes et les intégrer au fait, et donc jusqu'à ce qu'on ait même plus besoin d'y penser, que ça devient une habitude, pardon, et des habitudes automatiques. Et donc ça, c'est génial. Mais dans le cadre de ton comportement alimentaire, ça peut aussi jouer, c'est-à-dire que si tu as pris l'habitude, par exemple, de manger à chaque fois que tu rentres du travail parce que c'est ta récompense, potentiellement, justement, ces habitudes sont automatiques, tu ne t'en rends même pas compte, mais en fait, tu vas aller systématiquement manger. Ça arrive souvent à mes clientes, par exemple, devant la télé. Elles ont ce conditionnement de « je regarde la télé » et donc c'est égal à « je mange du pop-corn » ou « je mange des gâteaux » ou « je mange des bonbons ». Ok ? Et ça, ça peut être vrai pour plein d'autres choses. Par exemple, le conditionnement, les habitudes automatiques de « je mange quand c'est l'heure », entre guillemets. Donc, je mange toujours à 8h, à 13h, à 19h ou à 20h en fonction de tes habitudes. Mais ça, encore une fois, c'est un conditionnement, c'est des habitudes automatiques. Ça ne veut pas dire pour autant que tu as faim. Et en fait, ça peut driver justement ces compulsions, cette suralimentation, parce que tu n'as peut-être pas besoin de manger à chaque fois que tu es devant la télé, tu n'as peut-être pas besoin de manger à chaque fois que c'est le midi. Mais en fait, un autre conditionnement, par exemple, ça peut être que tu as appris qu'il fallait absolument finir ton assiette, et donc même si tu n'as plus faim, tu finis ton assiette, par exemple. Et donc tu vois à quel point les habitudes comme ça, automatiques, qui sont complètement inconscientes, peuvent justement engendrer ton comportement alimentaire, tes compulsions et ta suralimentation. Une autre de ces facteurs qui sont liés parfois à la restriction, c'est les croyances. Et ici, il y a deux volets que j'avais envie d'aborder. C'est les croyances que tu as sur l'alimentation et l'alimentation que tu devrais avoir, et les croyances sur le corps et sur la beauté en général. Les croyances sur ton alimentation, c'est un peu ce que je te disais sur les étiquettes que tu vas mettre sur les aliments, comme bon ou mauvais. Ça, c'est les trucs que tu as appris, que tu as entendu dans la société ou potentiellement que tes parents t'ont transmis aussi, qu'il fallait manger de telle ou telle façon, qu'il y avait une alimentation parfaite, qu'il y avait une alimentation pour pas prendre du poids, qu'il y avait une alimentation au contraire qui faisait prendre du poids, et que donc du coup, tu as toutes ces croyances autour de la nourriture qui finalement déjà ne sont peut-être pas fondées, et deuxièmement, qui aussi ne te servent peut-être pas. Et ensuite, tu as les croyances sur le corps et la beauté qui souvent vont engendrer justement tes pensées en fait sur ton alimentation et donc la restriction. Et donc en fait, c'est toutes les croyances que tu vas avoir sur le corps de la femme, parce que encore une fois, qui sont peut-être pas les tiennes, mais qu'on t'a inculquées, qu'on t'a apprises, que ce soit dans la société, les magazines, à l'école, que ce soit ce que tu vois sur les réseaux sociaux, que ce soit peut-être ce que ta mère aussi a pu avoir et donc du coup qu'elle t'a passé, forcément, par l'éducation. Toutes ces choses que tu as apprises de manière assez inconsciente font qu'en fait, l'image que tu veux, que tu as et que tu as envie finalement de aussi manifester, parce que c'est normal, on a envie d'appartenir, d'accord, fait que tu vas essayer de contrôler ton alimentation. Et pareil pour la beauté, en fait, comment tu vois là le corps parfait, la femme parfaite, tes notions de beauté, tes croyances sur la beauté vont aussi participer en fait à ce contrôle que tu peux avoir sur ton alimentation, donc potentiellement cette restriction, et donc potentiellement ces compulsions et ce comportement alimentaire que tu as, et toute cette charge mentale en fait que représente ton comportement alimentaire. Et donc, je passe rapidement au niveau des pensées, puisque finalement, c'est lié aux croyances. Tu as, en fait, on a des milliers et des milliers de pensées toute la journée. 80% de ces pensées sont négatives. Et ça, ça a été étudié en long, en large et en travers, notamment par un psychiatre américain qui s'appelle Aaron Beck, que moi, j'adore et que j'utilise beaucoup dans mon approche, et qui a vu avec ses patients, en fait, que 90% de nos pensées sont des pensées automatiques. C'est-à-dire que tu ne les choisis pas, c'est des pensées qui te viennent comme ça et qui sont liées en fait notamment à tes croyances. Et donc si tu as des croyances qui sont limitantes par rapport au corps, par rapport à la beauté, par rapport à l'alimentation, bah tu vas avoir des pensées très négatives par rapport à ça. Et en fait les pensées, ce que Aaron Beck a démontré avec justement tous ses patients au fur et à mesure des années, c'est qu'en fait tes pensées sont à l'origine de tes émotions et tes émotions sont à l'origine de ton comportement. Et donc quand tu as, au niveau du comportement alimentaire, le lien qu'on peut faire, c'est que quand tu as des pensées qui sont négatives sur l'alimentation, tu vas avoir des émotions assez désagréables par rapport à ça aussi, et donc un comportement qui peut être nocif, comme des compulsions, la suralimentation, des fringales. J'en parle beaucoup plus dans mon programme en ligne, du coup, qui est inclus dans mon accompagnement, mais c'est juste pour te faire le débrief. Et donc, en fait, tes croyances qui vont générer tes pensées vont générer tes émotions et donc ton comportement alimentaire. Et donc, tu vois ici qu'il y a un impact aussi qui est hyper important de ton mindset, de ton état d'esprit sur ton comportement alimentaire. Et la dernière chose que je vais aborder ici, c'est le fait d'être dans le contrôle permanent. Quand tu es dans le contrôle permanent de ton alimentation, et donc souvent c'est lié justement à tes croyances, à ta vision, à ta perception de l'alimentation parfaite, du corps et de la beauté, que tu contrôles constamment, que ce soit ton alimentation, mais aussi ton environnement, l'alimentation souvent devient ce moyen inconscient où tu t'autorises à perdre le contrôle. Et c'est pour ça que tu peux avoir des compulsions, des fringales, et manger beaucoup plus que ce que tu aurais besoin. C'est parce qu'en fait, ton corps et ton cerveau et ton état émotionnel ne sont pas faits pour être dans le contrôle permanent. Au contraire, on est plus fait pour être dans le laisser-aller, de vivre dans le moment présent, etc. Parce que c'est notre état de sécurité. Et ça, tu en apprendras plus dans l'épisode sur le système nerveux. Et donc, en fait, quand tu es dans le contrôle permanent, que tu es dans le stress permanent, il y a un moment donné où, bien évidemment, tu as besoin de lâcher prise. Et en fait, bien souvent, ce laisser-aller, ce lâcher prise, cette perte de contrôle, entre guillemets, va justement prendre la forme d'une perte de contrôle sur l'alimentation, parce que c'est là en fait où tu vas te relâcher, tu vas te relaxer et où tu vas accepter même inconsciemment de perdre le contrôle. Et en fait, dans le fond, ça te fait du bien parce que ça te permet de relâcher la pression. Et donc, comment travailler sur ça? Comment travailler sur les facteurs psychologiques? Tu l'auras compris, c'est hyper important de travailler sur tes croyances de fond, sur tes pensées automatiques, sur justement ce besoin d'être tout le temps dans le contrôle. Ça passe par la remise en question justement de tous les apprentissages, de toutes tes habitudes et donc la prise de conscience en fait de ces habitudes, de ces automatismes. Et donc pour ça, tu peux travailler avec un coach ou une coach par exemple ou un praticien en thérapie cognitive et comportementale qui sont des thérapies brèves et qui fonctionnent hyper bien pour tout ce qui est comportement, dont comportement alimentaire, parce que ça fait le lien entre les pensées, les croyances, en fait, toutes les cognitions et le comportement. Pour la dernière partie de cet épisode de podcast, je vais te parler des facteurs émotionnels. Et ici, je vais te parler de deux choses. Je vais te parler des émotions ponctuelles, entre guillemets, et de ton état émotionnel de fond. Donc les émotions fonctionnelles, c'est quoi? C'est les 6 émotions de base que tu connais, que sont la tristesse, la colère, la joie, le dégoût, la peur et la surprise. Donc ça, c'est des émotions que tu peux avoir à différents moments de ta journée et en fonction de comment tu les vis, de comment tu les vois, de tes croyances justement sur ces émotions, de est-ce que tu es plus quelqu'un qui va les accueillir, les accepter, ou au contraire qui va avoir tendance à les inhiber, à les cacher, à ne pas les accepter parce que tu as appris que c'était pas forcément ok, parce que tu as appris que c'était un signe de faiblesse, parce que on t'a jamais appris tout simplement à comment faire pour les réguler, pour les accueillir, les accepter, etc. et qu'elles passent. Et que du coup potentiellement en fait tu vas les enfouir, tu vas les garder pour toi. Et tu vas potentiellement justement chercher un moyen de compensation. Et un moyen de compensation et de régulation très commun, c'est la nourriture. Et donc ça peut être vraiment quelque chose de ponctuel. C'est-à-dire que quand tu ressens de la tristesse, quand tu ressens du dégoût, de la colère, etc., tu vas potentiellement instinctivement, par un mélange justement de croyances au niveau des émotions, par un mélange d'habitudes, par un mélange de pensées automatiques, etc., et de manque de régulation du système nerveux, d'aller chercher justement cette régulation, ce réconfort, cet apaisement dans la nourriture. Et ça, c'est quelque chose de très commun. Il y a beaucoup de gens qui mangent quand ils sont stressés, quand ils sont anxieux, quand ils vont avoir une période justement de tristesse, quand ils vont rentrer à la maison et qu'ils sont pas bien et qui ont passé une journée hyper chargée, etc. Et donc, ils vont manger. Et ça, en fait, si tu veux, tout dépend du degré, entre guillemets, mais l'alimentation émotionnelle de base, elle est OK, dans le sens où rentrer d'une journée compliquée de temps en temps et d'avoir envie d'aller manger un ou deux carrés de chocolat parce que tu sais que ça va te faire du bien, que tu le fais en conscience, que derrière, il n'y a pas de culpabilité, qu'il n'y a pas de stress, que tu vas pas tout calculer, que tu vas pas te restreindre, etc. Et que c'est juste, en fait, tu manges tes deux carrés de chocolat ou tes deux gâteaux ou tes trois gâteaux et qu'après, tout va bien et que ça t'a fait du bien et que c'est fini. À ce moment-là, il n'y a aucun souci, si tu veux. Le problème, la problématique commence à venir quand, en fait, c'est quelque chose que tu fais hyper régulièrement, que du coup, ça engendre de la culpabilité, de la restriction, des pensées envahissantes, etc., etc., et que ça génère, en fait, un stress chronique, finalement, qui est lié à ton alimentation. Et le second souci avec ça, c'est que du coup, ça t'empêche de vraiment apprivoiser tes émotions, de les accepter et de les libérer, de les laisser sortir. Parce qu'en fait, de manger pour inhiber ces émotions, pour compenser un petit peu tout ça, bah, va faire en fait que tu ne les gères, entre guillemets, pas du tout. C'est un faux semblant, en fait. C'est une fausse solution qui peut-être peut fonctionner sur le court terme, mais que sur le long terme, potentiellement, va faire qu'en fait, ces émotions vont s'empiler, vont s'empiler, vont s'empiler, vont s'empiler, et au bout d'un moment, ça va déborder, si tu veux. C'est un peu comme un vase qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit, sauf que si à un moment donné, personne le vide, au bout d'un moment, le vase, il va déborder. Et c'est ce qui peut se passer. Et en fait, quand ces émotions ponctuelles ne sont pas libérées, ne sont pas apprivoisées et restent finalement figées dans ton corps, ça peut générer plein d'autres soucis. Que ce soit au niveau physiologique, mais ça je ne l'aborderai pas aujourd'hui, mais en fait on sait de plus en plus que des émotions qui restent bloquées dans le corps, ça va générer des déséquilibres au niveau de l'organisme, notamment au niveau hormonal, au niveau de tes organes, etc. Et donc potentiellement plein de différents maux, MAUX et troubles, mais aussi au niveau émotionnel. Parce qu'en fait du coup ces émotions qui sont ponctuelles de base peuvent se transformer en état émotionnel beaucoup plus profond. Et c'est ça que j'ai davantage envie d'aborder ici et c'est sur ça que je travaille avec mes clientes aussi dans l'accompagnement. Bien évidemment, on travaille sur les émotions ponctuelles parce qu'on travaille sur en fait comment faire pour que ces émotions ponctuelles restent des émotions ponctuelles, pour qu'elles aient des outils pour justement réussir à les accueillir, à les apprivoiser, à les accepter et donc à les libérer en fait. Mais aussi, on travaille sur l'état émotionnel de fond. C'est-à-dire que, potentiellement, tu as des émotions qui se sont accumulées au fur et à mesure des années. Ça peut être des blessures émotionnelles, des traumas ou juste des émotions de fond que tu n'as pas libérées, qui se sont accumulées. Et justement, en fait, aujourd'hui, tu es face à un trop-plein, à un vase qui est trop-plein, qui a besoin d'être vidé, de l'eau qui a besoin d'être évacuée. Et en fait, la moindre émotion va engendrer un débordement parce que quand ton vase est trop plein, si tu veux, en soi, une goutte, une goutte, une goutte, quand le vase a encore de la place, tout va bien. Mais quand ton vase est trop plein, une seule goutte et le vase, il déborde. Et imagine quand tu ajoutes plusieurs gouttes, plusieurs gouttes, plusieurs gouttes, et bien en fait, tu as un vase qui est tout le temps en train de déborder. Et donc l'idée dans l'accompagnement, c'est qu'on travaille vraiment sur cet état émotionnel de fond aussi qui est là depuis plusieurs années. Et dans comment on fait pour travailler sur cet état émotionnel de fond, qui peut engendrer ces compulsions et ce comportement alimentaire et cette suralimentation émotionnelle. Et donc du coup, on va chercher à trouver quel est cet état émotionnel de fond? Qu'est-ce qui se cache sous cet état émotionnel de fond? Et comment on fait pour y travailler? Et ça, c'est notamment des techniques de coaching pour aller l'identifier et ensuite trouver une approche qui te correspond et qui te convient pour, au fur et à mesure, soulager cet état émotionnel de fond. Et donc, comment faire pour apprivoiser ces émotions et travailler sur cet état émotionnel de fond? Déjà, il faut apprendre à identifier tes émotions. Qu'est-ce qu'elles sont? Ne pas les diaboliser. À identifier leur rôle, ce qu'elles essaient de te dire, à quoi elles te servent, et puis à les accepter. Et ensuite, c'est avoir aussi à disposition des techniques de régulation émotionnelle, que ce soit la respiration, l'EFT, des techniques pour réguler justement ton système nerveux, etc. Et donc pour ça, tu peux travailler avec différents thérapeutes. Tu peux travailler avec des sophrologues, avec un praticien en thérapie cognitive et comportementale, avec un coach, des naturaux, faire de l'hypnose, des techniques énergétiques, des massages qui vont faire circuler l'énergie dans le corps, etc., etc. La plupart de mes clientes vont avoir un mélange de tous ces différents facteurs émotionnels, psychologiques et physiologiques. Et je travaille avec elles pour être sûre de les adresser un à un. Suite à l'accompagnement, elles sont capables de manger sans restriction, sans compulsion, sans suralimentation. Elles voient la nourriture non plus comme une source de stress ou de culpabilité, mais plutôt comme une source de plaisir. Et mon rôle aujourd'hui, c'est de te dire que toi aussi, t'en es capable. Avec la bonne approche, avec les outils qui te correspondent, tu en es capable. Le comportement alimentaire, c'est quelque chose qui se change. En travaillant, en identifiant la cause et en travaillant sur les facteurs profonds dont on vient de discuter aujourd'hui, c'est quelque chose que tu peux changer et tu en es capable. C'est pas un trouble hors du commun, c'est pas un trouble incurable. C'est pas quelque chose pour lequel on n'a pas de remède. Et justement, mon rôle, c'est de t'aider et de t'apporter les clés pour t'accompagner sur ce cheminement vers la liberté alimentaire. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que le comportement alimentaire dépend de plusieurs éléments, ce qui explique qu'il n'y a pas de solution miracle ou de pilule magique, mais qu'il y a vraiment la nécessité de travailler en profondeur pour identifier les facteurs qui, pour toi, engendrent ce comportement alimentaire, que ce soit des compulsions, des crises d'hyperphagie, une suralimentation, etc., pour t'en libérer de manière durable. Et c'est ce qui explique aussi que si tu as fait des régimes ou des choses qui travaillaient plutôt en surface, fait qu'en fait, c'est toujours revenu. Et donc, en fait, les compulsions, les fringales, la suralimentation, tout ça, ce n'est pas le problème. Ce sont que les symptômes et ce sont des indicateurs de quelque chose de plus profond qui bloque, qui ne te convient pas et d'un ou de plusieurs besoins qui ne sont pas satisfait. Et c'est primordial pour toi d'identifier le ou lesquels pour justement t'en libérer et retrouver un comportement alimentaire qui soit sain et serein. Comme je te le disais, pour cela, tu as le choix. Tu peux travailler avec différents thérapeutes et différents praticiens, des sophrologues, naturopathes, coachs, psychologues, énergéticiens, etc., etc. Ou tu peux aussi rejoindre Liberté Alimentaire, qui est mon programme de groupe multidisciplinaire qui te permet d'identifier la cause de ton comportement alimentaire et de t'en libérer durablement. Ça veut dire plus de compulsions, plus de salir alimentation, plus de pensées incessantes et envahissantes, que du plaisir. Pendant ce programme de 3 mois, on travaille sur les facteurs psychologiques, physiologiques et émotionnels grâce à la naturopathie, le coaching et les thérapies cognitives et comportementales. Les places sont ouvertes et tu peux réserver la tienne directement sur mon site internet. Tu as aussi l'option de réserver une séance découverte avec moi qui t'est offerte pour que l'on échange ensemble et que l'on puisse identifier si cette approche te serait adaptée. Tu retrouveras toutes les informations dans la description du podcast. J'espère que cet épisode t'aura plu et je te retrouve très vite pour les prochains épisodes de Liberté Alimentaire. J'espère que cet épisode t'aura plu et que tu repars avec des éléments pour avancer dans ton cheminement. Je t'invite à noter ce podcast grâce aux petites étoiles pour m'encourager dans la création de ces épisodes dans lesquels je mets beaucoup d'amour et d'énergie. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de Liberté Alimentaire.